OK, please sit down.
Thomas Schneider prend la parole. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer dès que la présentation sera affichée sur l'écran. Et ce sera très bientôt, j'espère. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette discussion que nous avons eue ce matin. Merci de l'esprit constructif dont vous avez fait preuve. J'espère que nous allons continuer nos discussions dans le même esprit. Et nous avons maintenant le deuxième élément de cette transition, de ce processus de transition, que nous allons commencer à aborder de manière plus détaillée aujourd'hui ou maintenant. Les coprésidents du deuxième groupe de travail ne seront pas parmi nous aujourd'hui. Ils seront là mercredi, par contre. Il y aura une réunion avec le CCWG et le conseil d'administration de 3 à 4 de l'après-midi. Et vous voyez sur notre ordre du jour que nous avons donc prolongé notre pause d'une heure pour permettre aux participants de participer à cette séance dans la salle La Pampa. Donc ce sera une autre occasion pour les membres du GAC de participer ou d'obtenir plus d'informations et plus de précisions par rapport à ce sujet. Ceci dit, j'aimerais commencer notre séance et donner la parole aux membres du GAC et aux participants qui ont suivi et ont participé activement au travail du CCWG. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de travail fait au sein de ce groupe. Ce groupe continue d'ailleurs à travailler pendant que nous sommes ici pour essayer de faire avancer les choses. Et parce que, bien entendu, il faut qu'ils abordent des questions qui sont liées à leur travail. Donc, je vais donc donner la parole aux membres du GAC qui ont participé au travail du CCWG pour qu'ils nous présentent ou qu'ils ouvrent notre discussion. Olga Cavalli prend la parole. Merci à tous. Merci à tous d'être revenus après la pause café. Merci beaucoup pour la séance de ce matin. Elle a été très informative pour nous tous et nous permet de suivre de plus près les processus de responsabilité. Nous avons préparé pour vous certaines diapos qui permettra aux nouveaux arrivants de suivre et qui permettra aussi à nos interprètes qui font un travail magnifique de faire leur travail plus facilement. Donc l'idée, c'est de présenter donc leur rapport qui a été présenté pour consultation publique début mai. Nous avons un groupe très intéressant de personnes dans ce groupe. Il y a Pedro du Brésil qui nous a parlé de ce qui s'est passé à la réunion de vendredi. C'est intéressant parce que la discussion a progressé. Et ensuite, Alice va nous parler des progrès, des discussions par rapport à la nouvelle proposition. Et ensuite, nous allons avoir un petit moment pour discuter. Et ensuite, Julia va nous présenter l'échéancier et nous allons avoir un petit moment pour discuter. Combien de temps nous avons ? Sur l'ordre du jour, nous sommes censés finir à 12h30. Cela nous donne 1h30. Peut-être que nous pourrons prolonger un petit peu notre séance. S'il vous plaît, vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Et je demande à mes collègues du CCWG de m'interrompre si je me trompe ou s'il y a des précisions à ajouter. J'ai certaines limitations au niveau juridique, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez intervenir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme vous le savez, le GAC participe au CCWG qui travaille sur la responsabilité en tant qu'organisation membre. C'est important de garder cela à l'esprit parce qu'il y a plusieurs participants à ce groupe. Nous avons 5 membres du groupe de travail qui ont été désignés pour respecter la diversité géographique, mais il y a aussi d'autres membres du GAC qui travaillent avec nous. Et nous avons travaillé en tant que groupe, Pedro, Susan, Jorge, Alice, Finn et moi-même. Le fait que nous soyons une organisation membre veut dire que nous avons notre mot à dire par rapport aux résultats et que nous pouvons y participer de manière active. J'ai téléchargé tous les documents et toutes les séances ainsi que tous les rapports dans l'espace du GAC pour que vous puissiez les consulter. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans l'espace ouvert du site web de l'ICANN, du GAC, pardon, le site web du GAC. Il y a donc un rapport qui a été publié par le CCWG Responsabilité qui a été soumis à consultation publique le 4 mai. Nous avons reçu un grand nombre de commentaires. Et ce document est basé sur certains éléments clés sur lesquels devrait reposer le travail pour mettre en place des mécanismes de renforcement de la responsabilité. Ces éléments clés, je vais vous montrer un schéma tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Ce sont des principes, la mission et les valeurs fondamentales de l'ICANN, le conseil d'administration, la communauté qui est habilitée ou qui est dotée des moyens d'agir, et cela est important parce que le GAC fait partie de cette communauté, et finalement, les mécanismes de recours indépendants dont on a parlé ce matin. Pouvons-nous passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Nous avons donc ce joli schéma. Et j'ai inclus quelque chose qui n'est pas sur le schéma. Pour comparer avec certains éléments d'autres États, donc cette architecture de responsabilité devrait reposer sur ces 4 éléments. Les gens, c'est-à-dire une communauté habilitée, dotée de moyens d'agir. L'exécutif, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, c'est le conseil d'administration. Ensuite, la constitution serait les principes et le pouvoir judiciaire serait les mécanismes de recours indépendants. Donc ces 4 éléments clés sont la base de la responsabilité, des nouveaux mécanismes de responsabilité. Diapo suivante. Un point fondamental de cette nouvelle structure, c'est que les statuts devraient refléter ou devraient inclure certains éléments qui sont au cœur de ce mécanisme de responsabilité. Ces statuts fondamentaux pourraient être modifiés seulement si la communauté approuve ces modifications. Les valeurs fondamentales, la mission, le pouvoir de veto des changements aux changements aux statuts fondamentaux, toute révision demandée par le CWG Transition, par exemple la révision des fonctions IANA, des nouveaux pouvoirs pour la communauté comme celui de révoquer le conseil d'administration, et nous allons inclure des révisions régulières. Comme nous le savons tous, cela pourrait être mis en place dans l'avenir car l'affirmation d'engagement établit des révisions périodiques de toutes les structures, et donc cela pourrait être inclus aussi dans les statuts fondamentaux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les pouvoirs de la communauté. La communauté aura plus d'influence sur certaines décisions du conseil d'administration. Cela est important pour la responsabilité de cette nouvelle structure. Nous avons défini donc des pouvoirs et des mécanismes. Et cela inclut la capacité de pouvoir révoquer les administrateurs du conseil d'administration si leur performance n'est pas correcte. Donc, révoquer des administrateurs ou tout le conseil d'administration, opposer son veto ou approuver des changements au statut de l'ICANN, rejeter les décisions du conseil d'administration concernant le plan et le budget si le conseil d'administration n'a pas tenu compte des commentaires de la communauté. Les commentaires de la communauté devraient être pris en compte donc dans ce type de plan et de budget. En ce qui concerne le processus de révision indépendant, ce processus de révision indépendant, ou ce panel de révision indépendant, devrait prononcer des décisions contraignantes qui devraient créer des précédents et ces décisions seraient indépendantes. Il devrait y avoir un comité, ce serait un comité permanent avec 7 panélistes nominés par le conseil d'administration, avec un processus de nomination où participe aussi la communauté. Les parties affectées incluent dans certains cas la communauté elle-même et les décisions du panel devraient être contraignantes pour le conseil d'administration de l'ICANN. Rappelez-vous que ces points figurent dans le document qui a été publié pour consultation publique et qui pourrait être changé dans une nouvelle version. Pardon. Alors, comment cela serait mis en place? Cela pourrait être mis en œuvre à partir de certaines hypothèses. L'ICANN devrait rester une société à but non lucratif basée en Californie. L'ICANN pourrait changer d'une société qui n'a pas de membres à une société basée sur des membres, c'est-à-dire un modèle associatif avec des membres. Et cela est important pour la discussion que l'on a eue, parce qu'il y a eu des changements à partir de la discussion de vendredi. Les ESSO et les AC créeraient des associations de fait qui seraient membres de l'ICANN pour pouvoir exercer leur pouvoir. Cela a été discuté vendredi dernier et de nouvelles informations ont été incorporées. Et un groupe communautaire aurait 29 votes, 5 pour la GNSO, pour la CCNSO, la ASO, le GAC et la LAC, et 2 votes pour les SSAC et le RSSAC. Cela sera révisé après la réunion de vendredi. Diapo suivante. Le document est un document assez long, 150 pages, mais il y a certaines parties qui parlent du GAC. J'en ai fait une liste ici. Pour que vous puissiez avoir une référence, nous avons préparé un document où l'on souligne ces parties qui concernent le GAC. Donc cela concerne notamment les changements aux principes opérationnels du GAC par rapport à la façon dont le GAC prend des décisions, si nous votons, si nous travaillons par consensus. Il y a certaines parties qui parle de la possibilité de forcer le conseil d'administration à répondre à l'avis du GAC, le consensus versus majorité au niveau du vote. Et j'ai inclus les pages où l'on peut trouver ces documents. Le document a été publié pour consultation publique jusqu'au début juin. Et c'est la diapositive que vous voyez. Ce n'est pas moi qui l'ai préparée. Je l'ai copiée de la page de l'ICANN, mais je trouve qu'elle est intéressante pour voir les commentaires qui ont été reçus. Les gouvernements ont envoyé 8 commentaires pour nous passer à la diapo suivante. C'est difficile à lire. Ce document a été préparé par l'ICANN. Des mécanismes pour habiliter la communauté. C'est par rapport à cela qu'il y a eu le plus de commentaires. Affirmation de commentaires, le fait de l'incorporer dans les statuts. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires par rapport à cela. Nous avons donc 4 commentaires d'Amérique latine, 15 pour l'Amérique du Nord, 14 pour l'Europe, 5 Afrique, 1 Asie et 1 pour d'autres SO et AC. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à d'autres processus et je suis ravie de voir qu'il y a eu des commentaires de ma région. Diapo suivante, c'est pour vous montrer combien de commentaires il y a eu des la part de la communauté et en dehors de la communauté. Diapo suivante. Je ne sais pas si on a une autre. Y a-t-il une autre diapo? Non. Très bien. Je vais maintenant, très brièvement, passer en revue les questions qui ont été faites par les membres du GAC, notamment liées au GAC en tant qu'association de fait ou association sans personnalité juridique. Est-ce qu'une personne juridique peut créer une association pour le GAC? Est-ce que si le GAC décidait de ne pas créer une société ou une association pour devenir membre de l'ICANN, est-ce que cela empêcherait au GAC de participer à l'exercice des pouvoirs de la communauté? Et si c'était le cas, comment cela serait mis en place? Donc voilà, ces questions concernent le fait de savoir comment le GAC va être incorporé dans cette nouvelle structure si l'on adopte la structure basée sur des associations de fait. Si le GAC ne souhaite pas devenir un membre, comment pourra-t-il être encore associé à l'exercice des pouvoirs de la communauté ? Est-ce que nous restons un comité consultatif? Participerions-nous à cette structure? La participation dans des associations étrangères nécessite un certain nombre d'étapes juridiques, ce qui pourrait rendre impossible la participation de certains gouvernements à ce type d'association. Quelles sont les conséquences d'une composition asymétrique entre le GAC et l'UA? Entre-temps, je ne vais pas toutes les lire, mais il y a un document où il y a toutes les questions des membres du GAC et les réponses préparées par notre expert juridique, par l'expert juridique du CCWG. J'ai envoyé le lien à la liste du GAC, mais si vous le voulez, je peux le renvoyer. Je vais m'arrêter là et je vais donner la parole maintenant à Pedro qui va nous dire ce qui se passe vendredi, parce que ce concept de association de fait ou association sans personnalité juridique a donné lieu à beaucoup de commentaires. On a eu une discussion par rapport à cela. Et Pedro, est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé à cette réunion du vendredi? Et Pedro, tu pourrais nous en parler et nous montrer le communiqué qui a été publié par le groupe de travail ce matin. Merci, Pedro. Pedro prend la parole. Merci, Olga. Je vais très brièvement vous raconter ce qui s'est passé à la réunion du CCWG Responsabilité vendredi dernier. Nous avons eu une longue séance pour réviser la synthèse et les commentaires de la consultation publique qui a été menée au cours du mois de mai. Le but était aussi de discuter de la façon dont le groupe allait procéder par rapport à la nouvelle version de recommandation. La conclusion principale que l'on a pu tirer à partir de l'analyse qui figure dans le communiqué d'ailleurs qui a été publié. Donc cette conclusion, c'était que il y avait un soutien initial à cette structure proposée avec les quatre éléments qui vous ont été présentés, les statuts fondamentaux, la communauté, habilité, etc. Deuxièmement, il y a eu des commentaires qui suggéraient que la responsabilité des SO et des AC devait être prise en compte. par le CCWG et finalement, la principale conclusion qu'on a pu tirer des commentaires reçus concernait le fait que beaucoup de commentateurs ont considéré que beaucoup de détails de mise en œuvre étaient trop complexes. Et ils étaient inquiets des implications juridiques de certains aspects de la structure. Ils parlaient donc de cette structure associative avec des membres. Et la question était de savoir si les SO et les AC seraient des membres de l'ICANN par le biais de la création d'une association de fait ou s'il y aurait d'autres moyens de devenir des membres. Donc, sur la base de ces conclusions, le CCWG a commencé des discussions pour voir comment on pourrait améliorer ces recommandations. Le principal débat a tourné autour du modèle de mise en œuvre. Nous continuons à défendre le modèle avec des membres, le modèle d'une association avec des membres, car nous pensons que c'est le seul moyen pour les AC et les SO d'exercer les pouvoirs de la communauté. D'autres ont exprimé leur point de vue en disant qu'ils veulent un modèle plus léger, sans les complexités juridiques associées au modèle associatif. Car ces personnes considèrent que ces complexités juridiques seraient des barrières à la participation de la communauté ou de certaines associations au travail de l'ICANN. Donc le CCWG responsabilité envisage donc d'autres possibilités pour donner le pouvoir aux AC et aux SO, pour donner donc à la communauté la possibilité d'exercer leur pouvoir sans rendre la structure trop complexe. Bien sûr, les détails de mise en œuvre de ce modèle doivent être encore analysés et examinés. Voilà une synthèse de ce qui a été examiné lors de la réunion du vendredi. Il y aura d'autres réunions du CCWG au cours de cette réunion de l'ICANN, mercredi et jeudi, où nous allons aborder d'autres questions que nous n'avons pas pu aborder jusqu'à maintenant. Comme par exemple l'IRP et des questions liées à la diversité ou aux droits de l'homme. Voilà un panorama de ce qui a été examiné. Olga Cavalli prend la parole. Comme vous pouvez le voir, après la réunion du vendredi, une révision du document qui a été présenté commence à être mise en place. Pedro nous a dit que cette révision est en cours d'étude. On va voir comment cela va évoluer, pour voir comment avancent les discussions au cours de cette réunion à Buenos Aires et après. J'aimerais maintenant donner la parole à Alice, qui va nous parler des éléments que l'ICANN doit considérer en ce qui concerne notre rôle en tant qu'organisation membre. Alice, je ne vous vois pas. Êtes-vous là? Alice, vous êtes là? Ah oui, je ne vous voyais pas. D'accord, très bien. Merci. Merci. Alice prend la parole. Merci à tous. Merci à nos collègues qui travaillent au CCWG. Il y a un document très utile qui a été distribué par le secrétariat. Olga Cavalli prend la parole. Alice, pouvez-vous parler plus près du micro, pardon. Alice reprend. Il y a un document très utile préparé par le CCWG. Et où il y a les suggestions du groupe Et nous pouvons donc lire ce document. Je vais passer en revue les principaux aspects. La question la plus importante concerne bien entendu le fait, la participation du GAC au mécanisme. Allons-nous voter ou allons-nous avoir un rôle consultatif, comme c'est le cas maintenant par rapport au conseil d'administration? Il faut considérer aussi que le GAC fournit un avis au conseil d'administration en matière de politique. Comment le nouveau modèle va refléter cela et comment l'avis du GAC sera considéré? Comment les considérations en matière de politique publique seront prises en compte dans la nouvelle structure de l'ICANN? C'est l'un des points les plus importants de ce document. Et ensuite, est-ce que le CCWG peut accepter que le cadre pour la considération des politiques publiques ne soit pas, le rôle ne soit pas moins important que celui qui existe aujourd'hui? Et puis, la question des statuts de l'ICANN, peuvent-ils être changés? Et l'ICANN peut participer à cela? Qu'est-ce que cela impliquerait? Comment le GAC participerait à ces mécanismes de habilitation de la communauté? Et quels sont les aspects de ces mécanismes qui doivent être considérés par le GAC? Est-ce que le GAC pourra fournir son avis de manière appropriée? Et ensuite, le panel de révision indépendant, il faut que l'on se demande, tel qu'il est proposé maintenant, est-ce que ce panel augmente la transparence? Est-ce qu'il augmente l'efficacité du panel? Il faut savoir que nous avons une certaine expérience avec le modèle IRP actuel et nous connaissons quelles sont les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Voilà les principaux points. Je vais laisser mes collègues contribuer. Donc, vous parlez de ce document. Brumark, je pense que Alice a couvert tous les points de ce document. Olga Cavalli prend la parole. Je ne peux pas vous voir d'ici, c'est très difficile de vous voir. Très bien, pas de problème. Julia, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'échéancier, où nous en sommes, quelles sont les dates prévues pour donner des commentaires, faire des commentaires, pardon? À quoi doit-on s'attendre? Et je vous rappelle que le CCWG Responsabilité aura une réunion en personne à Paris la semaine du 16 au 18 juillet, si je ne m'abuse. C'est un vendredi, un samedi. Le groupe va se réunir pour voir comment ils vont avancer après la consultation publique. Julia, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu quels sont les délais? Et ensuite, nous allons ouvrir le micro pour des questions ou des commentaires. Julia prend la parole. Merci beaucoup. J'aimerais vous donner un bref aperçu des délais prévus par le CCWG Responsabilité. J'espérais que ma diapo allait être affichée. C'est la dernière diapo.
Et là, vous pouvez voir le délai et le calendrier du 11 mars. Alors, la réunion en personne n'est pas incluse dans cette prévision. Nous travaillons avec cet échéancier depuis un temps considérable. Nous avons inclus les questions apparues vendredi dernier. Il faut garder à l'esprit que le CWG Supervision dépend de ce travail. Alors nous continuons à travailler en gardant cela à l'esprit. Je crois que la première période de commentaires publics a déjà été finie. Elle a eu lieu en mai. Et maintenant, ici à Buenos Aires, on va mener des réunions tout au long de la semaine où l'on va aborder les questions concernant ces sujets avec la communauté. On va parler de la proposition. Et Le 17 et 18 juillet, il y aura une réunion en personne à Paris où on préparera une proposition pour la deuxième période de commentaires publics qui va commencer le 20 juillet environ. Et l'on s'attend à une durée de 30 jours. Bien entendu, ce délai est tentatif. Gardez ça à l'esprit, OK? Le groupe présentera une proposition révisée aux SOEAC le 13 septembre. Le 13 septembre, d'après ce que je sais, nous, en tant qu'organisation membre, nous devons voir quelle sera notre réponse. L'idée est de livrer la réponse au conseil d'administration pendant la réunion de l'ICANN à Dublin environ le 22 octobre. Thomas Schneider prend la parole. Julia, une minute, s'il te plaît. Nous devons avancer avec les diapos sur l'écran pour voir le calendrier, OK? Julia, oui, merci. J'espère que vous pourrez bien le voir. Bien. Dans ce calendrier, on peut voir que nous travaillons assez rapidement. Et depuis maintenant jusqu'à la réunion en personne de Paris, on a du temps. Il y en a plusieurs parmi nous qui allons assister. Alors, si vous avez des questions à proposer, je vous demande de les partager et les traiter à Paris. Puis, il y a la deuxième période de consultation publique sur les questions en cours. Là, on a également un délai pour présenter les commentaires et les points de vue. Nous vous encourageons à ce faire. Merci, Olga Cavalli. Merci, Julia. Je tiens à remercier à tous mes collègues du groupe de travail. Pour moi, vos questions et vos commentaires ont été vraiment ont beaucoup aidé. Merci, Julia, Pedro, Jorge, Alice. Je vous remercie énormément aussi. Je remercie Cavus. Oui, mais Cavus participe de tout. C'est lui qui nous représente partout. C'est lui notre connexion avec les autres parties du processus. Alors, merci à vous de votre collaboration. Ceci dit, nous vous avons expliqué le contenu du document préliminaire. Les commentaires sont nombreux. J'ai envoyé à la liste du GAC les commentaires reçus. Je sais que ce sont de longs documents, mais c'est bien organisé. Alors, si vous êtes intéressé à revoir les commentaires présentés par d'autres membres de la communauté, d'autres ESSO et d'autres AC, je vous encourage à voir ces commentaires. À les réviser, c'est quelque chose d'un peu long parce qu'il y a beaucoup de commentaires ayant été présentés, mais l'ICANN a fait un grand travail en organisant et en collectant toute cette information. Il y a aussi des réponses des conseillers juridiques qui sont disponibles sur le site web du groupe de travail intercommunautaire. Julia, a dit très gentiment que nous remercions leurs commentaires et ses contributions pour nous préparer pour la prochaine réunion en personne. Alors, pendant toutes ces réunions, on espère que le GAC dise quelque chose et tout le monde nous regarde comme en disant « Qu'est-ce que le GAC a à dire ?» Et nous, on ne dit rien. Alors, il va falloir, à un certain moment, faire des commentaires et présenter les résultats du travail de notre groupe. Gardez cela à l'esprit. Je voudrais savoir si vous avez des commentaires ou des questions. OK, la France demande la parole. Permettez-moi de préparer la liste des orateurs. Les Pays-Bas, l'Iran, Alice... La Thaïlande, qui encore, C'est difficile de vous voir. Si je ne vous mentionne pas, veuillez lever la main. La Thaïlande, le Brésil et la France. La France, s'il vous plaît.
Collègues, quatre commentaires en français. D'abord sur le Community Empowerment Mechanism, pardon pour mon français. Nous comprenons que la dernière réunion du CCWG est revenue sur sa proposition initiale. Ça tombe plutôt bien parce que nous avions un certain nombre de difficultés et donc en l'état actuel des choses, nous attendrons de voir quel est le nouvel état de la proposition sur ce sujet-là avant d'aller un peu plus loin, mais je voulais mentionner ce point. Deuxièmement, sur le risque de capture du nouveau système. Nous avions fait un certain nombre de commentaires pour montrer qu'il existait un risque de capture des mécanismes de décision de l'ICANN au sens large par des groupes d'individus. Et pour atténuer ce risque, nous souhaitions que les parties prenantes respectent le principe de diversité culturelle tel qu'il a été formulé dans la déclaration issue de Net Mondial. Et nous comprenons également que le CCWG a eu des discussions sur le sujet et que cette question était prise au sérieux. Nous nous en réjouissons. Nous avons trois idées sur ce sujet-là. D'abord, nous souhaiterions qu'il y ait une politique de lutte contre les conflits d'intérêts au sein de l'ICANN qui soit forte, robuste et déterminée. Par exemple, nous recommandons la mise en place d'une règle de limitation du nombre des mandats, à la fois successivement et simultanément. Deuxièmement, nous encourageons la création d'une cellule ou d'une commission au sein de l'ICANN qui serait en charge du contrôle des déclarations de conflits d'intérêts faites par les membres du board. Et évidemment, cette commission serait indépendante. Et puis troisièmement, et c'est en lien avec le point que je vais développer juste après, nous souhaiterions que ce soit la communauté de l'ICANN elle-même qui sélectionne les membres de l'Independent Review Panel plutôt que de simplement confirmer une sélection qui, en l'état actuel de la proposition, serait faite par le board. Troisième point, et c'est peut-être le plus lourd à ce point, à ce moment de la discussion, sur les mécanismes d'appel. D'abord, la première chose que la France souhaite souligner, ce sont les progrès qui ont été faits dans cette proposition et qui sont des progrès absolument remarquables, notamment avec les deux principes les plus importants qui ont guidé cette réflexion et auxquels nous tenons particulièrement. Un, le fait que les décisions de l'IRP doivent maintenant être contraignantes, et deux, le fait que l'IRP soit désormais en situation de juger les plaintes non seulement sur le critère de régularité des procédures suivies, mais encore sur le critère de la substance, des mérites de chaque plainte. Et ce sont pour nous deux points très importants. Nous avons néanmoins un problème avec la façon dont le CCWG envisage de mettre en œuvre ces deux principes. Et nous avons une véritable difficulté avec le fait que l'on puisse reconnaître l'IRP comme une véritable cour internationale d'arbitrage pour résoudre les conflits relatifs aux politiques de l'ICANN. Nous avons vraiment fait une analyse juridique très approfondie des questions qui étaient suscitées par cette proposition. J'invite tous les collègues à reprendre le mémo, l'analyse juridique faite par les experts commandés, les experts employés par l'ICANN. C'est un mémo du 20 avril produit par le cabinet Sidley Austin qui dit bien où est l'ambiguïté et comment elle peut être levée. Trois raisons pour cela. La première, c'est que de manière générale, de manière fondamentale, en matière d'arbitrage, le droit requiert l'existence d'un contrat passé entre les deux parties. Et en l'occurrence, Nous ne voyons pas comment les bylaws de l'ICANN, et encore moins les politiques de l'ICANN, et encore moins les politiques de l'ICANN que nous ne connaissons pas encore, puisqu'elles n'existent pas, pourraient être considérées comme des contrats passés entre l'ICANN et l'ensemble des parties prenantes dans le monde pour être la base d'un recours à l'arbitrage. Deuxième raison, c'est, si je puis dire, le problème d'accountability, du mécanisme d'accountability. En l'état actuel de la proposition, le fait que les arbitres seraient payés par l'ICANN est un problème parce que c'est une manière de faire qui est totalement incompatible avec les pratiques de l'arbitrage international qui vise précisément à préserver absolument l'indépendance des arbitres vis-à-vis des deux parties avant qu'elles renoncent à faire valoir leur cas devant d'autres cours. Et troisième raison, elle est liée aux conséquences du recours à l'arbitrage international. En l'occurrence, les décisions de l'IRP, comme celles de n'importe quel cours d'arbitrage international, ressortiraient du droit international privé. Et en conséquence, si l'IRP jugeait du contenu de plainte par rapport aux politiques de l'ICANN, l'IRP donnerait à ces politiques, y compris celles qui n'existent pas encore, y compris celles auxquelles nous n'avons pas encore pu contribuer, donnerait à ces politiques qui ont aujourd'hui un caractère technique un statut juridique en droit international, ce qui est en contradiction totale avec le mandat technique de l'ICANN. Et donc pour nous, il est absolument nécessaire que dans les deux options qui ont été présentées par le cabinet Sidley Austin, c'est-à-dire soit un IRP advisory, soit un IRP enforceable, que le choix soit fait d'un IRP advisory comme un mécanisme interne à l'ICANN. Et à l'évidence, il y a de très nombreux moyens de faire en sorte que ces décisions revêtent un caractère contraignant au sein de l'ICANN. Ce n'est qu'une question de détail. Et j'invite chacun à regarder encore une fois ce mémorandum du 20 avril qui est tout à fait éclairant sur ce sujet. Et Olga, je voudrais terminer sur un point, comme je m'étais engagé, sur la question du stress test numéro 18 et de la core value numéro 11. Nous avons été frappés de voir ces deux amendements proposés à la communauté. Nous avons le sentiment qu'ils reflètent une tendance à remettre en cause, volontairement ou involontairement, la responsabilité des gouvernements et des autorités publiques en matière de politique publique. Pour ce qui est de la solution proposée par le stress test 18, je cite, entre guillemets, « C'est seulement quand il y a un consensus entre gouvernements que nous pouvons légitimement prendre en compte un avis du GAC comme une recommandation de politique publique. » Chers collègues, cette phrase, telle que je viens de la citer, peut se traduire très simplement de la manière suivante. Les gouvernements ne sont pas responsables des politiques publiques tant qu'ils ne parviennent pas à un consensus strict sur un avis du GAC. Ce qui est une traduction qui est non seulement inacceptable, mais surtout fausse, puisque bien évidemment, nous, les représentants du gouvernement, ou les gouvernements, sont toujours responsables des politiques publiques. C'est le paragraphe 35 de l'agenda de Tunis, c'est la partie 2.1.1 de la Déclaration des droits fondamentaux. Et c'est, de la même manière, l'actuelle valeur fondamentale, core value 11, de l'ICANN. À l'ICANN, comme ailleurs, la légitimité des recommandations du GAC en matière de politique publique a toujours été due au fait que c'était les gouvernements qui les prononçaient et non pas à la manière dont ils les prononçaient. Et il ne faut jamais déroger à cela parce que nous serions en difficulté vis-à-vis de nos propres responsabilités. Et puis, pour ce qui est de la core value 11, la valeur fondamentale 11, nous nous demandons qui, si cette valeur fondamentale devait être mise en œuvre, qui, au fond, à l'ICANN, serait en capacité de juger si, oui ou non, je cite encore entre guillemets, l'avis des gouvernements ou des autorités publiques en matière de politique publique serait conforme au règlement intérieur et compatible avec les engagements fondamentaux et valeurs fondamentales. Parce que de la même manière, cela semble sous-entendre que peut-être le conseil d'administration, peut-être le Community Empowerment Mechanism, serait désormais aussi également chargé de juger des mérites de n'importe quel avis du GAC, de ce que le GAC recommande, légitimement ou non. Au lieu de se contenter de regarder la procédure actuelle qui prévoit de répondre à n'importe quelle recommandation du GAC et qui nous va très bien. Encore une fois, seuls les gouvernements et non pas toutes les parties prenantes de l'ICANN peuvent dire ce qu'est un avis de politique publique et comment donner un tel avis. Et donc, nous comprendrions que les parties prenantes non gouvernementales aient leur mot à dire pour expliquer comment l'ICANN pourrait légitimement prendre un avis du GAC, mais nous ne pouvons pas comprendre que les parties prenantes non gouvernementales aient leur mot à dire pour expliquer ce qu'est un avis du GAC légitime. Je vous remercie.
Thank you, Franz. I lost my list.
Olga Cavalli reprend la parole. Merci, la France. Les Pays-Bas, s'il vous plaît. Les Pays-Bas prennent la parole. Merci, Olga. Merci à vous tous. Je crois que la salle est pleine de gens qui ont contribué et c'est un bon exemple de collaboration multipartite. Je voudrais mentionner deux points. Le premier qui est lié au lien entre les deux processus. Certains membres du GAC ont dit qu'il y a un lien très étroit, une dépendance, et nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a une dépendance. D'autre part, nous considérons que nous devons aussi tenir compte des mérites de la proposition du CWG comme un moyen pratique pour absorber la question de la transition de la NTIA, qui est maintenant la fonction critique qui est absorbée par le nouveau mécanisme. Il y a donc du mérite là, et je crois que les Pays-Bas voient de très bonnes conditions dans cette proposition parce qu'il n'y a pas de nouveaux risques étant introduits. Par contre, on maintient la fonction administrative, on n'introduit pas des composantes politiques, on n'introduit pas de nouvelles parties prenantes dans le processus. Alors je crois que la proposition a les mérites pour aller de l'avant. Et peut-être aux Pays-Bas, on ne peut pas dire qu'on l'approuve, mais on peut donner un signal positif pour continuer avec ce modèle. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien. Les aspects de conditionnalité dont on a tous parlé sont très importants pour les Pays-Bas également. Et je considère donc que pour le GAC, il est important de savoir, parce que en ce moment, il y a une cible mobile. On a beaucoup de solutions. Il y en a d'autres qui sont apparues vendredi. Et pour le GAC, il est très important de corriger ou de déterminer au moins quels sont les objectifs et les exigences spécifiques pour le CCWG. Sans savoir quelle sera la solution en dernier ressort, nous devons garder à l'esprit quel est l'objectif conditionnel de la proposition du CWG. Je crois donc que nous avons vu des listes, par exemple la liste des pouvoirs pour que la communauté soit plus autonome. Et il est clair que c'est un prérequis, mais le GAC, dans notre communiqué, on doit mentionner comment on évalue tout cela. Olga Cavalli, merci les Pays-Bas. L'Iran prend la parole maintenant. Merci, Olga. Je crois que ce serait peut-être bien de rappeler de quoi on parle lorsqu'on parle de CCWG. Le CCWG a le mandat d'améliorer la responsabilité de l'ICANN. pour ce faire, le CCWG doit prendre en compte toutes les questions de responsabilité découlant de la TRT et aussi des commentaires reçus pour la responsabilité telle qu'elle est aujourd'hui et voir aussi l'exigence de responsabilité du CWG et les éventualités et les exercices de résistance. Pour ça, on a créé deux pistes de travail. Tout d'abord, les engagements de responsabilité qui doivent être mis en place avant de faire la transition. La piste de travail 2, les questions liées à la responsabilité à long terme pour après la transition. Pour l'instant, on peut se concentrer sur la piste de travail 1. Pour la piste de travail 1, il y a deux questions principales. L'autonomisation de la communauté et aussi les systèmes de réparation et de correction. Il y a 6 domaines d'autonomisation de la communauté. Tout d'abord, en ce qui concerne les changements au statut, pour que la communauté puisse faire entendre sa voix, là, on pense que l'on pourrait établir un statut fondamental suivant la loi de Californie. Ce type de statut fondamental n'existe pas. Alors, il faudrait le modifier et le présenter autrement. Les statuts exige les 2/3 de la majorité ou peut-être des 3/4 pour faire des modifications. Puis, il faut penser à... c'est-à-dire à décider sur les membres du conseil d'administration, les révoquer. Et il y a 2 difficultés là-dessus. Une difficulté qui a trait... de rejeter le budget ou le plan stratégique. Voilà les questions les plus difficiles à aborder. Ce sont des questions difficiles du point de vue juridique parce qu'on ne devrait pas, il ne devrait pas y avoir des conflits avec les actions fiduciaires du conseil d'administration parce que le conseil d'administration a des devoirs à respecter et cela pourrait présenter des conflits. Il y a 3 modèles pour mettre en place tout cela. Le premier modèle, c'est le modèle volontaire, la situation existante, simple, mais peut-être il est difficile d'avoir tous ces pouvoirs. Deuxième mois, un modèle avec un désignateur, ce qui veut dire ceux qui ont le pouvoir de désigner les directeurs, les administrateurs. Et on pourrait parler du pouvoir de vote, avoir le pouvoir de vote ou pas. On pourrait aussi exercer 4 de ces pouvoirs ou de ces facultés que nous avons mentionnées, à savoir les modifications aux statuts fondamentaux, le retrait des administrateurs à titre individuel ou le conseil d'administration dans son ensemble, et puis le budget, le plan stratégique. Et là, le désignateur n'a pas des facultés pour gérer la situation, sauf avec les autres questions. Pardon, il ne peut pas le faire avec le plan stratégique et le budget. Il peut demander une reconsidération, mais pas autre chose. Et le troisième modèle, c'est le modèle d'adhésion. Et là, il y a la difficulté. Pour devenir membre, il faut avoir une association incorporée. Et c'est une question difficile du point de vue juridique. Ceci a été présenté en avril dans un de nos appels. Et nous avons dit qu'il est difficile de mettre en œuvre ceci, tout spécialement pour le gouvernement du point de vue de la procédure légale et de juridiction. Parce que les gouvernements ne pourraient pas faire de constitution ou de structures avec d'autres éléments qui pourraient ne pas être compatibles avec la juridiction nationale du pays. Et vendredi, l'association non incorporée, cette question a été laissée de côté. Alors, la question est de savoir comment exercer ces 6 pouvoirs. Avec quel modèle? Le modèle du désignateur ou le modèle d'adhésion? Si c'est le modèle d'adhésion, comment établir cette adhésion et quelles sont les conséquences légales? Et puis, il y a encore une autre partie plus difficile. La partie plus difficile, c'est le mécanisme de réparation et de correction. Alors là, comment donner des facultés à l'IRP, au panel de révision indépendante? C'est une situation difficile parce que là, on a un panel avec 7 membres désignés et 3 seraient désignés dans certains domaines et dans d'autres, on ne pourrait nommer que un ou deux. Alors, c'est difficile dès le début. Peut-être cela n'est pas compatible avec le droit international. Deuxièmement, il serait dangereux de donner la décision à un seul membre, à un arbitre qui décide normalement, suivant le droit international. Il devrait y avoir 3, pas 1. Alors, on ne peut pas laisser qu'une seule personne décide. Tout cela doit être absolument révisé. Et si tout commence là, l'ICANN, qui a son siège aux États-Unis, serait soumise aux droits des États-Unis, ce qui a beaucoup de limitations, parce que tout devrait être compatible avec les lois de l'État de la Californie. Et dans ce sens, il y a un grand nombre de restrictions du point de vue des tribunaux, etc. Alors, la situation maintenant, c'est que toutes ces questions doivent être traitées ou présentées au CCWG responsabilité, et il faut reconsidérer tout ça. Nous avons demandé un format en tableau pour mettre tous les SOEAC et horizontalement introduire les différents modèles, le modèle volontaire, le modèle des membres, le modèle du désignateur. Et là, on dirait auquel cas et qui aurait quel pouvoir et si un SOEAC, une organisation de soutien ou comité consultatif décidait de ne pas être membre. Que se passe-t-il? On perd nos droits, on n'a plus de droits pour rien discuter. Si on n'est pas membre, on va pouvoir participer avec ceux qui sont membres et avoir les mêmes droits. Voici quelques questions juridiques auxquelles il faut répondre. Et la réponse reçue a été adressée au deuxième groupe pour aborder la question. Et les autorités du CCWG, dans ce message, ils ont dit que c'était très difficile de répondre à ces questions parce que c'était des questions très importantes, notamment pour que les gouvernements puissent décider quelle est la décision à prendre. Alors, la situation est assez complexe, Monsieur le Président. Il y a des points obscurs ici, il y a beaucoup de questions qui doivent être répondues et le CCWG a une dépendance du CWG et il faut donner une réponse à la proposition du CWG comme organisation membre. Alors, de manière collective ou à titre individuel, j'encourage les membres du GAC à participer activement des activités du CCWG, d'envoyer les commentaires à titre individuel, à titre collectif, de participer dans les appels. Les appels sont ouverts à tous, mais soyez prudents parce qu'il y a des appels à 2h du matin. J'ai participé pendant 36 heures d'appels de téléconférence. Et mon gouvernement ne sait pas que j'ai participé, que j'ai consacré si longtemps à ces questions. Il faut consacrer très longtemps ces questions complexes et les gouvernements doivent avoir plus d'activités. Je ne dis pas qu'il n'ait pas été actif, mais il faut encore plus d'activités. Il doit faire davantage d'attention à ces questions qui sont très importantes. Et dans la période de consultation publique pendant la deuxième période, il y aura 40 jours. C'est notre dernière opportunité pour agir. Sinon, on aura perdu le temps. Merci. Merci, Cavus, Olga Cavalli. Merci du détail du processus et des pouvoirs et de tout le reste. Votre participation est vraiment importante. Je passe la parole à Alice Bougna. Merci. Je passe le micro à mon collègue d'Uniwe, parce que moi, je crois que j'ai tout dit. Le représentant d'Uniwe prend la parole. Je crois qu'on s'éloigne un tout petit peu du thème central. On perd de vue le cœur de la question, parce que ici, il faut parler de la manière dont le GAC peut retenir la fonction en tant que comité consultatif sur la base de ce qui a été débattu vendredi sur la possibilité d'avoir un modèle de membre. Voilà la question centrale. Olga Cavalli, merci. Il y a maintenant la Thaïlande. La Thaïlande prend la parole.
Merci.
Juana Witt prend la parole. Je voudrais poser une question parce qu'on a la piste de travail 1 et la piste de travail 2. Il semblerait qu'il va y avoir beaucoup de modifications. Alors, je crois qu'il faudrait travailler avec les équipes qui travaillent maintenant et dans le groupe qui analyse la méthodologie de travail du GAC et voir si nous pouvons gérer cette question au cas où il y aurait des doutes sur à qui adresser nos consultations. Du point de vue des principes, nous savons que nous avons l'avis du conseil d'administration, le CWG est clair. On s'est communiqué avec, il y a un processus, mais pour le CCWG responsabilité, je crois que la structure n'est pas trop claire. L'Iran a fait une description, mais quelle que soit la manière qui sera adoptée, il faut ajuster les principes du GAC et notre manière de travailler justement pour nous adapter. Parce que sinon, je ne sais pas comment on pourrait faire pour se communiquer avec l'entité, avec qui, parce qu'il semblerait qu'il y a un IRP, une entité qui ne semblerait pas être reflétée dans nos principes opérationnels. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Olga Cavalli, merci la Thaïlande. Je peux demander une clarification. Lorsque vous parlez d'entité, de quoi parlez-vous, la Thaïlande? Il y a un flux de processus très clair dans le CCWG qui fait référence aux organisations de soutien qui se communiquent avec eux pour leur indiquer s'ils sont d'accord avec la proposition. Nous parlons du CWG. Alors, la proposition est communiquée à l'ICG, puis au conseil d'administration. Les organisations de soutien reçoivent les commentaires. Mais ça, dans le cas du CWG, mais dans le cas du CCWG responsabilité, c'est différent. Nous avons la piste de travail 1 et 2. Et je ne sais pas comment on va organiser cette communication, ce va-et-vient de l'information. Je ne vois pas comment on pourrait coordonner la communication des organisations de soutien et des comités consultatifs à travers le panel IRP. Thomas Schneider prend la parole. Bon, peut-être pourrions-nous dire que oui, que c'est vrai que ces deux processus sont très différents. Ce qui est tout particulier de CCWG, c'est que nous avons la division entre la piste de travail 1 et 2, ce qui n'existe pas dans les autres structures et dans les autres processus. Mais je ne crois pas que ceci représente nécessairement un problème. Je comprends au moins que nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut travailler en faveur de la piste de travail 1. Qui est lié à la facilitation de la transition, comme nous l'avons dit auparavant. Alors, il faudra se concentrer pour que la transition puisse aller de l'avant. Et tout le reste, à savoir des questions complexes de la piste de travail 1, mais la piste de travail 2, je crois que ce sera encore plus complexe d'après le commentaire de notre collègue de l'Iran. Si je comprends bien, il y a un manque de clarté sur la manière de développer la piste de travail 2 dès que la partie 1 sera finie, la partie liée à la transition. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et nous avons aussi nos propres idées sur les attentes que nous avons par rapport au processus à plus long terme pour améliorer la responsabilité, à savoir la piste de travail 2. Si je comprends bien ce que vous dites, on parle de ce qui viendra dans l'avenir. Ni l'ICANN ni la communauté, nous n'aurons peut-être pas le temps suffisant pour définir clairement comment travailler dans cette piste de travail 2. Et des dispositions peuvent être dans la charte du groupe intercommunautaire, mais peut-être devrions-nous réfléchir là-dessus et refléter nos attentes pour voir ce qui n'est pas inclus dans la piste de travail 2, et bien comment ça va se passer dans la piste de travail 2, si j'ai bien compris. Olga Cavalli, merci Wanawid, merci Thomas. J'ai le Brésil dans la liste des interventions et puis le Royaume-Uni. Le Brésil prend la parole. Merci Olga. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai mentionné dans la séance précédente, mais je voudrais affirmer ou réaffirmer notre position par rapport au fait que nous avons eu un exercice restreint avec le format existant, qui est déjà mis en place et ce qui présente plusieurs soucis pour nous. Alors, on nous demande de soutenir quelque chose qui, pendant un grand nombre d'années, on a eu des difficultés avec. Et deuxièmement, je voudrais mentionner ceci a trait à des observations que j'ai déjà faites. Je voudrais les réitérer à la lumière de ce que j'entends ici. Pour ce qui est des éléments qu'il faut prendre en considération dans cette approche générale, même s'il y a des modifications, l'approche pour ce processus serait le même que pour tous les processus de gouvernance de l'Internet. Il faut être cohérent avec notre participation ici et dans d'autres forums. Nous essayons toujours de nous guider des deux principes centraux qui surgissent de l'évaluation de l'agenda de Tunis, qui dit que la gouvernance de l'Internet exige la participation pleine des différentes parties prenantes. Et le second principe, c'est que la participation devrait tenir compte des rôles et des responsabilités de chacune des parties prenantes. Du point de vue des gouvernements, je dois dire que c'est notre devoir comme gouvernement de nous assurer que nos rôles et responsabilités soient bien traités et bien abordés dans le processus. Je ne me sens pas à l'aise quand j'entends dire que les gouvernements, il faut que nous soyons guidés par une approche purement technique. Je crois qu'il y a d'autres communautés qui ont travaillé avec cette question et qui se sentent à l'aise. Nous, depuis notre point de vue, il faut nous assurer que la nouvelle structure permette au gouvernement d'exprimer de manière appropriée leur avis sur des questions de politique publique. Voilà ce qui doit nous préoccuper, nous les gouvernements. Je voudrais donc remercier la France d'avoir mentionné la question. Ce serait vraiment très problématique du point de vue de mon gouvernement, tout au moins, si on avait des limitations sur la manière de donner notre avis ou de notre capacité ou possibilité de donner notre avis. Parce que tout cela serait ajusté aux intérêts d'autres parties prenantes, ce qui serait tout à fait inapproprié. Je ne crois pas que les mêmes critères soient appliqués à toutes les autres parties prenantes de ce processus, qui soient jugées par d'autres de la même manière. Alors, le GAC devrait s'assurer de pouvoir donner cet avis. Je suis tout à fait d'accord avec les observations de la France. On ne devrait pas avoir de limitation. Il faudrait rejeter toute limitation. Sinon, on serait dans une situation où on ne peut pas exercer une influence sur les questions qui se passent à l'ICANN en ce moment. Ce ne serait approprié ni pour cet exercice, ni pour aucune discussion liée à la gouvernance de l'Internet dans différents forums. Une autre question que la France a mentionnée. Tout d'abord, je dois dire que nous soutenons absolument les commentaires de la France sur le besoin de penser à des règles pour éviter des conflits d'intérêts dans des cas lorsqu'on participe de l'IRP. Nous sommes d'accord avec l'idée que la communauté elle-même doit sélectionner les membres du conseil d'administration, les membres au lieu du conseil d'administration. Nous soutenons donc ces commentaires et ce qui a été dit par rapport aux principes 11 et 18. Nous voudrions remercier la France d'avoir mentionné un point que nous avons souligné dans notre commentaire, à savoir que l'IRP comme mécanisme d'arbitrage serait très bien parce qu'il donnerait une supervision indépendante du processus de l'ICANN. Mais là, cela pourrait également impliquer des aspects problématiques du point de vue des gouvernements. Je crois donc qu'il faut analyser davantage la question. Nous prenons dûment note et nous voudrions avoir plus de clarté sur ce point. Merci beaucoup de nous avoir donné la perspective de savoir que les gouvernements ne doivent pas adopter des mécanismes qui entraîne des difficultés, notamment du point de vue de notre manière de nous exprimer. Dans le commentaire de la France, le commentaire écrit, on parle de la vie du conseil juridique que l'on a cherché par rapport aux sources ouvertes, les experts juridiques. Sont des experts en matière de droit des États-Unis, des lois américaines. Mais ici, on veut appliquer une loi pour tous. Alors, nous, on fait face au même enjeu de penser à nos propres experts juridiques. Parce qu'il y a d'autres experts juridiques qui ne sont pas payés par l'ICANN, qui peuvent contribuer, qui peuvent faire des propositions concrètes. Il y a certaines questions qui doivent être débattues, qui sont des questions qui sont importantes. Je crois que Alice a présenté certaines questions fondamentales. La qualité de notre participation doit être élevée et voir si on peut remplir le rôle de conseiller, si on pourrait avoir le droit de vote. Alors, je voudrais discuter davantage tous ces modèles qui sont envisagés maintenant, le modèle d'adhésion ou le modèle de donner du pouvoir aux SOEAC et ce que l'on discute au CCWG sur la responsabilité. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Il y a un grand nombre d'éléments importants qui sont présentés par cette version préliminaire de proposition, mais j'invite tous mes collègues à analyser la proposition en gardant à l'esprit notre participation et nos responsabilités. Et nous assurer que notre rôle de conseiller en politique publique soit présent là. Je suis étonnée de voir que nous voulons retenir notre fonction de comité consultatif dans notre évaluation. Ce n'est pas une fonction qui nous permette de faire les apports dont nous avons besoin dans ce processus. Alors, pour nous, l'objectif n'est pas que tout reste tel quel. Si nous voulons participer de cette manière, il faut laisser le comité technique faire son travail. Merci de votre apport. Mark Carvel prend la parole du gouvernement du Royaume-Uni. En premier lieu, je tiens à remercier à tous mes collègues de leurs apports, de leurs contributions, de ce débat, de cette mise à jour. En ce moment, entre deux versions de la proposition du CCWG, comme le Brésil et d'autres collègues, j'ai demandé l'avis des conseillers juridiques de mon ministère pour évaluer les différentes options de l'octroi du pouvoir à la communauté pour pouvoir agir et de ce que cela signifie pour le GAC et notamment compte tenu de son rôle actuel de comité consultatif du conseil d'administration. et savoir quel serait le possible impact sur notre rôle et aussi voir s'il serait possible que les représentants du GAC participent dans des votes stratégiques au sein de la communauté dans le cadre de ces mécanismes d'octroi du pouvoir. Maintenant, ceci est un peu obsolète. L'information présentée récemment à mon ministre est aussi un peu vieillie parce que nous voyons que nous sommes dans une situation très active, très dynamique, et nous voyons que nous sommes dans une étape d'analyse, d'un modèle de pouvoir pour les SOAS. C'est difficile donc d'adopter une position ferme à ce stade. En plus, outre la définition de mécanismes que le CCWG élabore toujours, notamment la possibilité de superviser le budget, le plan stratégique, avoir l'adhésion au sein du Conseil, etc. Mais il faut voir aussi qu'il est important d'avoir un élément qui indique comment les gouvernements peuvent travailler en faveur de l'intérêt public. Il faut garantir cette composante dans ce nouveau mécanisme d'octroi de pouvoir. Mais tout cela n'est pas très bien défini pour l'instant. Le CCWG souhaite présenter une proposition révisée dans laquelle inclure le modèle proposé pour les SOAC et que ce modèle soit développé plus profondément, ce qui nous permettrait d'analyser ce nouveau modèle et de voir qu'est-ce que l'on pourrait faire par rapport à toutes ces questions légales ou constitutionnelles avec lesquelles nous sommes confrontés. Je remercie les collègues, notamment notre collègue de la France, d'avoir analysé ces questions. D'une manière si détaillée, et je le remercie de ces questions critiques pour les gouvernements qui ont beaucoup aidé et dont nous avons pris dûment note. Notamment la référence spécifique au mémo du 20 avril effectué par par Sidley. Je me demande si on aura une meilleure position après la réunion personne de Paris qui coïncide avec mes vacances. Mais bon, c'est une décision critique que je dois prendre et peut-être je devrais revoir mon propre calendrier de vacances après avoir travaillé intensivement en juin. Mais maintenant, je demande, on va être mieux placé en tant que GAC pour pouvoir, en tant qu'organisation membre, étudier cela et garantir que cette pièce du puzzle de la transition du rôle de supervision des fonctions d'IANA soit située là où elle doit et que cette pièce est le soutien nécessaire de notre part en tant qu'organisation membre. J'espère que la question soit claire, elle est un peu longue. Merci, Olga Cavalli. Merci, Marc. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. L'Indonésie, vous avez la parole.
L'Indonésie a la parole. Merci. Merci, Olga. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les membres qui ont participé au travail du CCWG Responsabilité, les remercier de ce travail qu'ils ont fait et d'avoir rendu possible cette proposition, une proposition aussi complète que celle qui nous est présentée. Pour rebondir sur les commentaires faits par l'Iran sur les propositions en ce qui concerne les juridictions, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que une grande partie de ces sujets ont fait l'objet de débats avant et j'aimerais proposer aux membres du GAC de ce groupe de travail d'analyser la possibilité de tenir compte ce qu'un grand nombre de pays ont dit par rapport à cette question de la gouvernance de l'Internet sous l'égide de Nations Unies. Le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet en a parlé après la réunion de Genève du SMSI et avant l'agenda de Tunis. Je pense que la proposition de ce groupe de travail était claire. Et de mon point de vue, cela doit encore être mis en place. Et c'est valable aujourd'hui. Bien sûr que la proposition de la NTIA est différente de celle du fait d'être sous l'égide de les organisations des Nations Unies. Mais nous pourrions envisager l'idée d'accepter que l'idée du groupe qui a travaillé sur la gouvernance de l'Internet, pour ne pas parler de pays, mais plutôt de parties intéressées ou de parties prenantes. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de simple parce que nous devons réviser tout cela. Mais si nous pouvons considérer cette possibilité, alors les commentaires de l'Iran et d'autres pays pourraient être pris en compte. Et il ne faut pas oublier que ces propositions du SMSI ont été... la proposition du WGIG ont été discutées de manière très approfondie par plusieurs pays des Nations Unies. Essayons de trouver une solution pour trouver un système qui puisse être satisfaisant pour tous dans cette transition des fonctions d'IANA. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à la lumière de certaines discussions, quand les pays ont parlé du système GPS, si vous vous souvenez, quand on a eu ces discussions sur le GPS, il y a eu un problème similaire à celui auquel nous sommes confrontés. À la suite des discussions du GPS, nous avons aujourd'hui le système de Galilée, nous avons le GLUNA, le système GLUNA et peut-être d'autres systèmes qui viendront dans les années à venir. Voulons-nous un Internet mondial? Oui, et donc il nous faut essayer de trouver une solution à partir de ces idées qui ont été discutées et qui ont été ces propositions qui ont été discutées au sein du WGIG. Olga Cavalli prend la parole. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres commentaires? Je pense que nous avons bien discuter de ce modèle, de ce nouveau modèle pour habiliter les ESSO et les AC pour voir s'il peut être mis en place et quels seraient les différents pouvoirs, différentes fonctions. À partir de la réunion de vendredi, nous n'avons pas encore ces informations. Et je soulève cette question devant vous, à savoir, pouvons-nous préparer un document de questions ou de commentaires du GAC? Et ici, je parle à voix haute, mais je vois qu'il y a des préoccupations de la part de certains pays. Et il y a des commentaires qui ont été envoyés par certains pays dans le cadre de la consultation publique. Et je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait préparer une liste avec des questions générales du GAC, un document que l'on pourrait partager avec le groupe intercommunautaire comme étant des préoccupations des gouvernements, des préoccupations importantes que certains pays ont soulevées, certains pays, mais pas tous. Je ne sais pas si notre président a des idées par rapport à cela. Thomas Chanel prend la parole. Merci Olga, merci à tous de cette discussion très profonde et très constructive. Avant de donner la parole au Pérou, il serait intéressant de faire un pas en arrière et de se demander qu'est-ce qu'on attend de nous, quelles sont nos attentes en interne au niveau du GAC, qu'est-ce que cela veut dire. Et donc, deux choses. D'un côté, la transition des fonctions d'IANA et le lien entre cette transition et notre travail. Nous devons donner une réponse assez claire au CWG par rapport à la vision du GAC en ce qui concerne la proposition, sachant qu'il y a des éléments qui conditionnent la proposition du CWG et sachant que la proposition du CWG a des liens étroits avec d'autres propositions. Nous savons aussi qu'il y a des délais assez étroits et qu'on demande de nous de donner des orientations aussi bien par rapport à la partie de la proposition concernant la transition, mais aussi par rapport à d'autres parties. Je sais qu'on ne veut pas donner, nous ne devons pas donner un message noir ou blanc, mais nous devrions essayer de trouver un moyen de formuler les éléments de consensus du GAC dont nous avons entendu parler au cours de ces discussions. En ce sens que le GAC doit avoir un impact sur les discussions futures en matière de responsabilité. Ce processus n'est pas fini. Nous avons lu une première version préliminaire. Une deuxième version préliminaire est en cours d'élaboration. Nous devons donc parler de quelque chose qui existe en version préliminaire. Mais il faut que l'on se pose la question maintenant, avant Dublin, pour y réfléchir avant Dublin. Nous devons être très clairs par rapport à ce que nous voulons obtenir et par rapport à la façon dont nous allons organiser notre travail. Jusqu'à mercredi, nous allons devoir commencer à rédiger quelque chose pour voir qu'est-ce que nous voulons présenter au CWG, voir sous quel format. Nous ne savons pas encore si nous allons soutenir ou non cette proposition. C'est le processus que nous devons suivre et auquel nous devons réfléchir. D'après ce que j'ai compris, on attend de nous une réponse qui puisse aider le CWG à avancer pour qu'il puisse savoir si la proposition peut être acceptée. Et à partir de ce qui a été dit par la France et par d'autres pays, il y a des éléments de fond qui ont été soulevés et il faut voir dans quelle mesure ces éléments peuvent être des conditions fondamentales pour approuver ou soutenir cette proposition ou non. Il faut communiquer toutes ces informations au CWG pour leur faire part de nos discussions telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Bien sûr, nous pouvons parler du processus, etc., et reconnaître l'effort qui a été fait, mais nous devons aussi donner des orientations par rapport à ce qu'attendent les gouvernements du CCWG par rapport à la piste de travail numéro 1, ce que nous attendons de la deuxième piste de travail également. Cela d'un côté. D'autre part, nous devons être préparés pour participer à des discussions telles que l'a dit Cavus de l'Iran. Il y aura un moment décisif au mois de juillet parce que cette idée du modèle SOAC habilité ou doté d'un certain pouvoir d'agir semble tentante et il faut voir comment elle est formulée. Mais c'est une idée un peu vague et nous pouvons contribuer à façonner ce modèle de telle sorte qu'il puisse être viable. J'essaie de voir de manière plus claire comment nous allons procéder. Après la pause, nous allons avoir une réunion avec le SSAC. Et c'est important pour nous parce qu'ils ont décidé de ne pas être membres de l'ICANN. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être comparés avec nous parce qu'ils ont un rôle différent et ils ont des fonctions différentes et des méthodes de travail différentes, mais leurs réflexions peuvent nous aider à mieux réfléchir à quel est notre rôle dans ce nouveau modèle ou quel pourrait être ce rôle. Puis nous aurons une demi-heure pour continuer nos discussions sur le CCWG ou le CWG. Et ensuite, nous aurons une pause d'une heure pour pouvoir participer aux discussions avec le conseil d'administration. Mais il nous faudra trouver un moyen de pouvoir exprimer les orientations recommandées par le GAC au CCWG avant mercredi. J'ai le Pérou, l'Iran et peut-être d'autres pays aussi. Le Pérou, s'il vous plaît. Le Pérou prend la parole. Je vais parler en espagnol. Je voulais tout simplement faire une petite réflexion. J'ai suivi de très près le débat de ce matin et tous les avis sont importants, mais j'ai suivi très en détail les avis de la France, l'avis de la France et du Brésil. La France a avancé un avis par écrit et le Brésil aussi. Le Pérou a analysé également l'avis du cabinet d'experts, Sinley. Mon intervention vise à mettre l'accent sur le fait que dans ce débat, il y a un sujet, un thème qui est transversal à tout ce qui nous intéresse au sein du GAC, c'est-à-dire l'application du droit international. Je pense qu'il est important d'en parler. Car nous nous engageons dans un processus de changement. Et dans ce processus, il faut voir quel est le rôle du droit international. Il n'y a pas d'autre scénario pour les représentants gouvernementaux. C'est notre obligation, c'est le rôle que nous jouons. Et c'est le seul moyen pour nous de faire valoir les différences et les changements qui devraient être introduits au sein de l'ICANN. Merci beaucoup. Thomas Schneider prend la parole. Merci le Pérou. L'Iran prend la parole. Merci. En tant que participant, agent de liaison de CCWG, je pense qu'il est très improbable que pendant ces deux ou trois jours au sein de l'ICANN, on arrive à une position commune. Nous pouvons essayer de refléter le fait que nous avons considéré que, sachant que l'idée de la création d'associations de faits n'est pas retenue, le GAC voudrait savoir comment les nouveaux mécanismes seraient mis en place et quelles seraient les approches dont il faut tenir compte pour le modèle associatif. Il faut bien connaître cela pour mieux comprendre quelles sont les implications au niveau juridique. Il faut voir qui représente chacune des AC ou SO, car tout cela a des conséquences juridiques. Ceci dit, nous pourrions ajouter une question qui a été soulevée dans nos discussions, car cela pourrait aider. On pourrait donc inclure ces discussions qui ont été soulevées. Cela pourrait aider les groupes lorsqu'ils vont se réunir au mois de juillet. Cela pourrait les aider à réfléchir à ces points. Si les collègues peuvent participer à ces réunions en personne, ce serait intéressant. Et cela pourrait aider le CCWG parce que tous les autres experts seront là et nous pourrions avoir des réponses à des questions qui n'ont pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Je pense qu'il est très improbable que l'on arrive à une position commune maintenant. Et je vous signale que le CCWG n'attend pas une position commune de l'ICANN. Ce qu'il attend, c'est des commentaires ou des avis, que ce soit à titre individuel ou au niveau du GAC. Il considère, au lieu des associations de faits, la possibilité d'essayer de mettre en place un certain type de résolution. Nous pourrions donc en parler ou analyser cela, mais je ne pense pas que l'on puisse arriver à une position commune. Je pense qu'on pourrait tout juste faire une liste des questions soulevées ou des commentaires qu'on a à faire. Thomas Schneider, l'Argentine. Olga Cavalli prend la parole. Je pense que Cavus a soulevé un point très intéressant. Il se peut que l'on ne puisse pas se mettre d'accord au cours de ces journées sur une position commune, mais nous pourrions élaborer une liste de questions ou d'inquiétudes. Et cela pourrait être intéressant même pour les autres pays, car cela pourrait apporter davantage de détails et davantage de clarté à d'autres points qui sont analysés. Je pense que cela pourrait être un exercice que l'on pourrait faire, même si on n'arrive pas à une position commune. Nous pourrions donc demander des précisions, faire une liste avec toutes nos questions, car cela pourrait nous aider. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Nous pourrions faire les deux choses, nous mettre d'accord sur certains éléments. Je n'exclus pas la possibilité que l'on puisse se mettre d'accord sur certains éléments, mais aussi nous pourrions faire cette liste de questions qui font l'objet d'un débat ou des préoccupations qui ont été soulevées par les membres. Y a-t-il d'autres commentaires avant la pause pour le déjeuner? L'Indonésie, s'il vous plaît. L'Indonésie prend la parole. Merci. Avant la pause déjeuner, je voulais tout simplement attirer votre attention sur la discussion du groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet, car deux possibilités sont proposées. Bien sûr, on pourrait rentrer dans le détail, mais en gros, la possibilité que l'ICANN fonctionne sous l'égide des Nations Unies, ou bien l'OIG, ce qui ne serait pas acceptable aujourd'hui. Donc ce que nous pouvons faire, c'est établir une ONG, une organisation multipartite, mais cela doit être en ligne avec les conventions telles qu'elles sont proposées par le WCIT. Il y a des conventions aussi d'autres que certains pays doivent respecter. Cela ne va pas affecter les propositions concernant l'habilitation des SO et des AC. Il s'agit tout simplement d'un processus de prise de décision du point de vue juridictionnel. Je parle de ça parce que si l'on n'arrive pas à finir tout cela avant septembre-octobre cette année, si on n'arrive pas à discuter de tout cela avant, cela pourrait avoir des conséquences qui ne seraient pas positive. Nous voulons donc que ces discussions puissent avoir lieu pour que l'on puisse aboutir à un Internet mondial, préserver un Internet mondial. Nous devons nous assurer que ces discussions puissent aboutir avant septembre-octobre. Merci. Tom Eichner reprend la parole. Merci beaucoup, l'Indonésie. Oui, les États-Unis. Les États-Unis prennent la parole. Merci. Je ne veux pas vous empêcher d'aller manger, mais je vous tiens tout d'abord à remercier les collègues qui ont partagé les perspectives nationales, parce que c'est très utile. C'est vraiment la richesse de ces discussions et de ces réunions, pouvoir écouter les préoccupations des uns et des autres. Le CCWG a travaillé vendredi. Je sais qu'il y a eu des progrès. Je sais qu'il y a une nouvelle proposition qui a été distribuée avec le modèle d'habilitation des SO et AC, et nous espérons pouvoir commencer à réfléchir à propos de cela. Mais j'ai une suggestion à faire, voir si je peux obtenir votre point de vue. Je me demande, quelle que soit la proposition finale, je me demande si nous pourrions voir quel est le rôle que le GAC devrait avoir, devrait jouer en termes de décisions qui devraient être prises pour doter de pouvoir à la communauté. Par exemple, le pouvoir de veto ou le pouvoir de modifier un budget proposé ou la possibilité de révoquer le conseil d'administration ou des membres du conseil d'administration. Selon les statuts du point de vue des États-Unis, je pense que le GAC est le seul comité consultatif dont la vie oblige au conseil d'administration à prendre en compte nos recommandations. Car si le conseil d'administration décide de ne pas suivre notre avis, ils doivent donner les raisons qui les poussent à ne pas le faire. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris, mais je pense que certains pays pensent que le rôle du GAC sera modifié. Je pense que ce serait utile de savoir si c'est ça ce que certains pays pensent, parce que il y aura des pouvoirs pour une communauté habilitée. Est-ce que le GAC pourra exercer aussi ses pouvoirs? Ce sont des réflexions qui pourraient peut-être guider nos pensées. Je pense qu'à ce moment, en ce moment, je crois que l'Iran a parlé de cela. Il est très improbable qu'on arrive à une position de consensus aujourd'hui ou avant mercredi. Mais je pense qu'il serait très utile. Et nous espérons qu'on pourra le faire, de préparer donc ce document avec les idées des uns et des autres pour savoir ce que nous cherchons et comment nous nous voyons, quel est notre rôle dans l'application de ces outils. Merci. Tom Eichner prend la parole. Je pense qu'il y a un point très important et des éléments importants dans ce que vous avez dit. En ce qui concerne les différents pouvoirs de la communauté, tels que l'Iran l'a dit, il y a des différences entre ces différents pouvoirs, notamment en ce qui concerne le rôle des gouvernements ou le rôle du GAC par rapport à certains éléments en particulier. Par exemple, en ce qui concerne en matière de politique ou en matière de statut, il faudra donc analyser ces différents pouvoirs de manière séparée pour voir quel serait le rôle des gouvernements dans chacun de ces pouvoirs. Je vois que le Brésil souhaite prendre la parole. Le Brésil prend la parole. Très brièvement, je tiens à remercier les États-Unis d'avoir soulevé ces points qui reflètent la façon dont le GAC veut aborder cette question. En ce qui concerne la perspective de mon gouvernement, nous sommes d'accord avec les États-Unis. sur le fait que notre avis doit être respecté par le conseil d'administration. Or, nous ne devons pas oublier, d'autre part, que les gouvernements font partie d'une communauté de parties prenantes qui n'est pas représentée au niveau du conseil d'administration. Nous donnons notre avis, mais cet avis peut ne pas être considéré ou ne pas être mis en œuvre, appliqué. Il y a donc cette idée selon laquelle nous ne faisons pas partie de cela. Nous ne cherchons pas à changer cela dans la nouvelle structure. Nous voulons savoir comment nous pouvons nous assurer de ne pas diminuer nos chances d'influencer les décisions qui sont prises et de savoir si notre avis, comment notre avis sera appliqué, considéré. Et c'est une façon de penser comment nous, en tant que gouvernement, pouvons avoir une influence sur ces processus. Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres commentaires ? Oui, nous allons avoir d'autres commentaires. Alice, de l'Union africaine, je vous prie d'être bref. Alice prend la parole. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les États-Unis de nous avoir posé cette question fondamentale. Quel est le rôle que nous voulons avoir en tant que GAC dans ces nouveaux mécanismes ? Envisageons-nous de changer la façon dont nous fournissons notre avis ? Je pense qu'il nous faut être clair par rapport à cela. Je comprends que l'on ne puisse pas se mettre d'accord dans cette réunion, peut-être, mais il nous faut encore réfléchir à cette question, en discuter, et revenir vers le CCWG, car ce groupe attend les orientations du GAC par rapport au rôle qu'il veut jouer dans ce nouveau modèle, notamment ce qui concerne notre avis au conseil d'administration. Merci. Thomas Schneider prend la parole. L'Iran prend la parole. Un point à préciser. En ce qui concerne la révocation des administrateurs individuels du conseil d'administration, il a été dit à plusieurs reprises que les SO et les AC qui désignent des administrations avec des pouvoirs de vote pouvaient révoquer ces administrateurs, mais ne pouvaient pas révoquer des administrateurs avec pouvoir de vote. Donc, si nous sommes en mesure de révoquer des administrateurs d'autres SO et des AC, nous ne pouvons, par contre, révoquer des administrateurs qui ont été désignés. C'est une question que nous devons étudier, non seulement par rapport au budget, mais aussi par rapport à d'autres aspects. Nous devons bien comprendre ces questions. Parce que si nous sommes considérés de manière séparée par rapport à la communauté, il va falloir voir quelles sont les conséquences de cela. Thomas Schneider prend la parole. Je pense que le moment est venu de faire reposer un petit peu nos cerveaux et le reste du corps aussi. Cela va nous aider à tenir pour le reste du jour. Merci beaucoup à tous pour ce débat très constructif. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et nous allons nous réunir à nouveau à 14h. Merci beaucoup.